Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants avec Étienne Jarnel, directeur de la rédaction du Point et nouvel animateur télé. On va le retrouver sur LCI cette semaine pour une toute nouvelle émission, Le Point des idées. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces deux heures d'infos. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Étienne Jarnel.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir.
Je suis ravi d'être là.
Il n'y a pas que la télé dans la vie, encore qu'on va parler télé, mais c'est vrai que vous êtes le patron du Point, de l'hebdomadaire Le Point, qui est largement le premier news magazine de France. On va revenir avec vous sur une nouvelle activité, un nouveau partenariat entre LCI et Le Point, une émission qui va s'appeler Le Point des idées, tous les vendredis à 21h05. On va y revenir. Vous serez avec la journaliste Sonia Chironi et on va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour.
Eh bien, la question du jour, elle est liée à notre invité. On a voulu savoir si vous continuez à acheter des hebdomadaires d'actu. On vient de vous poser la question. Alors, pour le moment, c'est pas terrible. Pas terrible pour la presse écrite. Toutes les semaines, 10%, de temps en temps, 3%. En fonction de la une, 3%. Donc, ça a une part importante. Et jamais 84%. Mais les votes viennent de démarrer. Alors, peut-être après votre interview, les gens diront qu'ils achètent un hebdomadaire toutes les semaines.
Oui, vous savez, moi, j'ai les chiffres du Point.
D'accord.
Ça s'appelle une consultation. Mais justement, il n'y a pas d'effet internet, d'effet télé sur les hebdos actuels, en tout cas sur Le Point.
En fait, moi, je crois que tout s'enrichit. On a fait une progression en numérique de 35% d'abonnements numériques l'an dernier. Ouais. Et l'abonnement papier a progressé également. En réalité, ça marche ensemble. C'est faux de croire que c'est un jeu à somme nulle. Ça marche ensemble. On peut avoir du succès sur les deux. Et l'année 2020, de ce point de vue-là, était une très bonne année. Pour Le Point, et ça continue.
Mais est-ce que les chaînes info, ils n'ont pas certainement un peu tué la presse écrite en ayant l'info avant vous?
Non, d'abord, ils ne l'ont pas forcément avant nous, parce que je vous rappelle qu'on est en numérique. aussi, et parfois pas, ça dépend. Ouais. Je crois que ça va ensemble, tout simplement. Vous savez, on a longtemps dit que la radio, il y a une époque, elle allait tuer la presse écrite. Puis on a dit que la télé, elle allait tuer la presse écrite, et la presse écrite est toujours là. Et au contraire, moi, je pense qu'il y a une complémentarité. Et d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Ouais. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et le numérique en tant que tel, l'apparition numérique nous a servi. En réalité, on arrive à atteindre des audiences qu'on n'arrivait pas à atteindre auparavant dans le monde du papier.
Oui, et puis vous avez des unes à chaque fois extrêmement puissantes et interpellantes. La semaine dernière, c'était Mila. Cette semaine, c'est comment l'ARN va changer nos vies, avec un entretien que je n'ai pas encore lu, mais qui, je crois, est tout à fait passionnant.
Catherine Caricouk, exceptionnelle chercheuse hongroise qui vous... redonne envie de vivre dans la déprime ambiante.
Et qui n'a pas été entendu à ses débuts, qui n'avait pas les budgets pour aller sur l'ARN. Son histoire est assez incroyable.
Son histoire est fabuleuse et revigorante.
Ouais. Voilà. Allez, Gilles, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Alors lui, il était confiné depuis le 8 novembre. Hein, 80 jours seuls, 80 jours, 16h, 19 minutes, 46 secondes. Yannick Bestaren a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe au Sable d'Olonne, sous un feu d'artifice matinal. Alors si vous habitiez les Sables d'Olonne, il était 4h du matin.
Il y a Yannick qui a gagné le Vendée Globe.
Voilà, tout le monde est réveillé maintenant au Sable d'Olonne, parce qu'il y a tellement de bruit avec le feu d'artifice que tout le monde va se lever pour voir cette victoire et ce chenal pour Yannick Bestaven.
J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner, quoi. Ouais, c'est bizarre, hein, on passe de la solitude au total à ça, quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là, malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe.
Vous me ferez des feux d'artifice quand on sortira du confinement.
Absolument.
Et puis sinon, des gnocchis à la 15, une daube à la 8 et des lentilles à la 7. C'est les plats qui ont été servis en toute illégalité, évidemment, au restaurant Le Poppies à Nice. Le restaurateur Christophe Wilson revendique évidemment de braver la loi.
On a toujours vécu avec des virus et on vivra encore avec des virus. Mais on ne peut pas vivre avec des masques, on ne peut pas vivre dans le confinement. On ne peut pas vivre ça, ça suffit. Regardez ça, où on en est là. On est à l'agonie tous. Il y a des milliers d'emplois, je ne sais pas si ça va se chiffrer en millions d'emplois. Il y a toute la filière derrière les restaurateurs.
Vous en pensez quoi?
C'est idiot, parce que aujourd'hui on en a besoin. Après, il y a un sujet de liberté globale, liées aux restrictions sanitaires et qui pourraient durer après la pandémie. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il faut quand même faire un peu attention.
Ouais, ça pourrait faire à la une, la nouvelle prohibition avec les restaurants cachés, les magasins qui vendent sous le manteau.
Oui, c'est la prohibition, ça a duré très longtemps aux États-Unis, et là, ça va pas durer très longtemps.
Non.
Il reste quelques mois, c'est le... espérons en tout cas.
Espérons, oui, c'est ça. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il avait un chef qui était sans papier et qui se retrouve aujourd'hui en rétention et qui risque d'être envoyé dans son pays. Donc c'est vraiment une...
Oui, j'allais enchaîner là-dessus en disant pour braver la loi, il a bravé la loi parce qu'il est en garde à vue pour avoir donc avoir un chef cuisinier sans papier. Ah là là, mais pourtant, il le savait, Pascal Pro sur CNews, et bien oui, il savait que ça finirait mal, cette histoire.
Moi, je vais vous dire, je pense qu'il s'est fait plaisir une journée, il va le payer très cher. Pourquoi il va le payer très cher? Il n'aura plus d'aide, c'est terminé.
Plus de dédommagement.
De dédommagement. On va lui couper les vivres, etc. Son petit heure de gloire aujourd'hui, c'est hélas pas la solution. Et ça, faut le dire très clairement.
Une affaire qui a ulcéré l'éditorialiste Jean-Michel Apathy sur LCI, qui a voulu rappeler les conséquences concrètes d'un tel acte.
Est-ce que vous imaginez la situation d'une famille où des gens meurent du Covid ou d'autres choses? Il n'y a plus de cercueil. Si on laisse circuler le virus, il n'y a plus de cercueil. Alors c'était vrai à Bergame, d'accord. C'est vrai aujourd'hui en Allemagne, où les secteurs s'empilent et où on ne sait plus quoi en faire. C'est vrai en Afrique du Sud. C'est vrai dans toutes les régions qui ne maîtrisent pas la circulation du virus. Il n'y a plus de cercueil. Que font les êtres humains quand il n'y a plus de cercueil? C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle les corps? On n'a pas conscience du désordre que peut provoquer la circulation accrue du virus.
Et puis des fois, quand on est chroniqueur, Valérie, on veut passer pour un petit malin, vous savez, le journaliste qui a voulu jouer copain-copain, je connais le présentateur, on est potes. Et ben, c'était mal connaître Julien Migaud-Muller sur BFM, cette chroniqueuse l'a appris à ses dépens.
Alors, je t'emmène dans ta région aujourd'hui.
Oh.
On va aller en Franche-Comté,
Absolument. Alors, non, mais
il y a deux belles Franche-Comtés. À un moment donné, la région c'était la même, on l'a séparée. On va dans le Doubs.
Voilà, exactement. Voilà. Moi, je suis de Lyon, mais bon, à quelques centaines de kilomètres près.
C'est presque pareil.
On se connaît très bien dans cette équipe.
Ben
donc,
voilà,
mais
donc c'est parfait.
Allez, emmène-moi.
Oui, regarde le meilleur de la télé, Gilles, tous les jours. Étienne Jernel, donc depuis début janvier, depuis le 8 janvier, vous êtes sur LCI, aux côtés donc de la journaliste Sonia Chironi pour le point des... Chironi, on dit ?
Ouais.
Chironi. Chikirou, c'est Hachi, donc voilà.
Oui, c'est voilà, ça, c'est une bonne référence.
Non, mais bon, je ne savais pas. Donc, l'idée de ce magazine, c'est un partenariat entre Le Point et LCI. Il y a une famille, il y a quelque chose de commun dans la famille Le Point et la famille LCI.
Écoutez, en ce qui me concerne, oui, parce que je crois que ma première chronique télé régulière, c'était sur LCI, c'était une dizaine d'années.
Ouais.
À l'époque où c'était en payant, d'ailleurs.
Ouais.
Et puis, on s'entend bien, voilà, on a... C'est vrai d'ailleurs de LCI, c'est vrai du groupe TF1. Mmh. On s'entend en général assez bien. C'est assez facile de travailler avec eux. Et là, en l'occurrence, ça s'est passé de manière très simple. Moi, ça fait très longtemps que j'avais envie de ça. Ça fait très longtemps qu'on voulait avoir une émission du Point, ou en tout cas en partenariat, où on serait vraiment impliqué dans la construction de l'émission. Et puis, il y a quelques semaines, en fait, je prends un café avec Fabien Lamias, qui me propose la botte, et en fait on s'est mis d'accord en 5 minutes, parce qu'on était d'accord, on avait envie de la même chose.
À quand il vous a proposé un café, parce que les bars sont fermés?
On a le droit de se voir dans les locaux.
Ah
de
oui,
téléphone.
D'accord.
Voilà, à la machine à café. Et effectivement, on vous a proposé ce que vous savez faire, et ce que vous aimez faire, c'est-à-dire du débat d'idées, avec des personnalités. Vous avez reçu Henri Leclerc.
Oui, et puis le débat d'idées, c'est assez fondamental au Point. Ça fait très longtemps qu'on est investi là-dedans, et puis depuis quelques années encore plus avec la création de cette rubrique Postillon, de Fébé, qui est une veille d'idées internationale. Donc c'est notre dada un petit peu, et ça tombait bien parce que LCI avait le même genre d'envie, et voilà. Donc on s'est retrouvé sur cette idée-là. C'est une petite audace aussi à la télévision. Ouais. C'est pas facile, mais il faut y aller. Et puis
qu'est-ce qui est pas facile de faire de la télé intelligente?
Non, c'est pas facile de faire du débat d'idées à la télévision. Ouais. Je sais pas qu'il y en a pas, mais d'émissions qui est ouvertement portée là-dessus, il y en a pas tant que ça, si vous regardez.
Ben c'est ce que j'ai, du ouais. débat d'idées intelligent, parce que du débat d'idées, il y en a, mais qui tourne souvent au café
pas
du
toujours,
commerce.
Oui, parfois, pas toujours.
Pas toujours,
pas
non,
toujours,
non.
Pas toujours, et puis des intellectuels, des chercheurs, il y en a aussi ouais. à la télévision, à la radio, ouais. dans d'autres émissions, mais nous, on apporte notre manière de le faire, et puis c'est une émission qui est dédiée à ça, voilà, ouais. Donc c'est le but.
Et alors, comment vous travaillez, justement? Qui sont quelle est votre ligne directrice sur cette émission?
Écoutez, notre ligne directrice, elle vient un peu avec le fil de l'eau, il faut ouais, dire les choses. Ouais. Notre idée, quand même, c'est d'essayer d'éclairer le présent. Ouais. Donc d'être dans des sujets qui sont sinon dans l'actualité, du moins dans l'air du temps, ou alors dans les choses qu'on ne voit pas dans l'air du temps, mais qui sont fondamentaux dans ce qui se passe aujourd'hui, et de faire venir des gens qui sont capables d'en parler intelligemment, qui connaissent le sujet en profondeur. C'est pas une émission de chicorne, hein. On n'est pas forcément là pour s'étriper. C'est pas le but du jeu, mais d'essayer de faire avancer les choses. Et puis tout cela repose sur un pari qui est fait trop peu souvent. En fait, on sous-estime toujours l'intelligence des gens. On sous-estime toujours leur curiosité et leur exigence, ou trop souvent en tout cas. Et le pari qui est fait, c'est de dire bah écoutez, les gens, ils ont envie aussi de débats d'idées le plus haut de gamme possible, et ça ne les effraie pas. Et je pense que nous, journalistes, et je m'inclus dedans, on a souvent ce défaut-là de sous-estimer l'envie de notre public d'exigence.
Ouais. Mais allez-y, Gilles.
Oui, un peu ce que disait Jacques Chancel, d'ailleurs, qu'on ne doit pas donner forcément au public ce qu'il veut, mais essayer de le faire élever d'élever la pensée. Vous êtes un peu dans cette idée-là de Chancel,
vous savez,
en disant ne pas satisfaire les basses pensées des gens.
Vous savez, on a lancé il y a quelques années une rubrique qui s'appelle Phébé, qui est une veille d'idées internationales qui s'inspire beaucoup de la recherche universitaire, notamment américaine et britannique, mais pas seulement du monde entier. Puis au début, on se disait quand même, c'est quand même assez pointu tout ça, ça va intéresser personne. Puis on s'aperçoit que c'est une des rubriques qui contribue le plus aux prises d'abonnement sur le site du Point. Ouais. Et donc, c'est une leçon à retenir. En réalité, les gens s'intéressent à ce genre de choses. Ils ne sont pas étrangers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser par ailleurs à Nabila. Nabila, c'est intéressant aussi. Ouais. Nabila, c'est intéressant. Mais Joël Toledano, qui est une chercheuse spécialisée sur les GAFAM, c'est intéressant aussi. Henri Leclerc, c'est intéressant aussi. Voilà.
Oui, vous avez fait les GAFAM sont-ils plus forts que les États?
Oui.
C'est un des thèmes que vous avez abordé, mais avec des spécialistes. Et c'est effectivement ce qui change par rapport à des débats où on a, je dis de façon un peu péjorative, du café du commerce ou des gens qui ne connaissent pas les sujets.
Disons qu'il faut pas avoir peur, parfois, de rentrer un peu dans les détails, de rentrer un peu dans la complexité. Et la plupart des gens, ils sont beaucoup plus au courant et beaucoup plus renseignés qu'on ne l'imagine. Et quand ils ne le sont pas, éventuellement, il faut des recherches. Mais de temps en temps, il faut se dire, regardez, voilà.
Donc vous êtes à l'opposé des réseaux sociaux.
Non, parce que dans les réseaux sociaux, vous trouvez aussi des choses formidables. Vous trouvez aussi des gens qui disent des choses très pointues, très intelligentes et très fines. Mais je vous l'accorde, comme disait Audiard, c'est comme les poissons volants. Ça existe, mais c'est pas la majorité du genre.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce type de débat, alors je vais citer journaliste Jean-Jacques Bourdin, qui avait accordé une grande interview au Figaro il y a quelques mois, où il disait aujourd'hui, finalement, c'est de la paresse journalistique, ces débats, je ne parle pas du débat d'idées, mais les débats qu'on voit fleurir partout, sur toutes les chaînes de télé, c'est de la paresse journalistique, c'est plus facile d'inviter des débatteurs que d'avoir des gens qui font de l'enquête ou qui vont approfondir les sujets, ce qui était le cas. On voit que les chaînes d'infos ont changé de visage, si je prends... ce qui était les chaînes d'info il y a 15 ans, ce qui était les chaînes d'info avant où il y avait des magazines un petit peu plus réfléchis, maintenant on est vraiment dans le hard news. Oui.
Je sais pas. C'est votre
avis.
Pas forcément. Je crois qu'il y a quand même une très très grande diversité de contenu sur les chaînes d'info.
Il y a quand même pratiquement que du débat.
Que enfin, du
débat.
Il y a
à part LCI qui vraiment, je trouve, se démarque quand même sur ce type de programme.
LCI a fait ce choix, ne serait-ce que ça, de faire une émission d'idées le vendredi soir, ce qui est un show audacieux. Et qu'il faut souligner, c'est quand même très important. Je sais pas, j'ai du mal à porter un jugement là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de débats? Oui, il y a aussi beaucoup de chaînes et beaucoup de radios. Donc forcément, il y a beaucoup de débats. Est-ce que ça dilue un peu parfois? Peut-être. Est-ce qu'on y trouve que des choses bêtes? Je crois pas, absolument
non,
pas
non.
ça. Au contraire, parfois c'est formidable. Et parfois c'est inattendu d'ailleurs. Donc non, je sais pas, je suis pas certain qu'il y ait eu un changement, mais en même temps j'ai pas une expérience suffisante dans la télévision pour vous dire ça.
Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du groupe Altice, qui a une partie de la presse, et on voit que Bolloré veut aussi avoir une partie de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire des journaux, et est-ce que finalement, c'est pas sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'on retrouve une vraie liberté? Qu'est-ce que vous pensez à tous ceux qui disent que les journalistes ne sont pas libres? Il y a eu récemment l'affaire de France 2, on a vu que certains journalistes pouvaient avoir des primes s'ils payaient de l'Europe et tout ça. Qui parlait de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance anti-journalistique?
Je sais pas, je suis un peu sceptique, moi, sur le principe de son... Mais c'est très bien qu'il existe, sondage de la Croix, hein, puisque c'est lui qui l'a fait, sur la confiance dans l'indépendance des médias. Ils oublient, non seulement parce qu'ils oublient une chose, qui est très importante à mon avis, dans la question de l'indépendance et de l'indépendance d'esprit, parce que c'est ça qui est quand même le plus important, c'est l'indépendance des journaux par rapport à leurs propres journalistes. Ça va peut-être vous étonner ce que je dis là, mais je pense qu'il est un journal où, c'est vrai, d'une chaîne de radio ou de télévision, doit être indépendant, y compris du corps social qu'il compose. Et ce que je crains, moi, c'est qu'il y ait une forme aujourd'hui de communauté journalistique un peu homogène, socialement, intellectuellement et politiquement, dont on trouve, si je caricature un petit peu, beaucoup de représentants de l'11e arrondissement de Paris, et qui pensent un peu tous la même chose, et qui sont pas indépendants de ce que pensent leurs amis. Donc ça, c'est quelque chose contre laquelle il faut être, enfin, à laquelle il faut, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Maintenant, d'une certaine façon, ce qui m'importe, c'est pas tellement comment les gens considèrent les journaux ou les journalistes, mais ce qu'ils sont vraiment, hein, au-delà de la perception. Ce qui compte, c'est la vérité. Moi, je pense que globalement, oui, les journaux sont indépendants. Et notamment, ils sont indépendants quand ils gagnent de l'argent. C'est une banalité que de le dire, mais l'indépendance économique et l'indépendance éditoriale, c'est en grande partie le même sujet.
Et vous êtes totalement indépendant.
Nous, on est totalement indépendant. D'ailleurs, on n'est même pas dans un groupe de presse. On suit notre voie. On a une voie qui est un peu originale, qui n'est ni celle du Figaro ni celle du Monde, avec la liberté également de faire parler des gens qui pensent l'inverse de ce qu'on pense, ce qui est très important.
Qui est assez iconoclaste dans le choix des unes, avec des choix assez courageux. Vous avez fait Mila la semaine dernière.
Oui.
C'est là aussi comment ça se passe, comment vous débattez de ces unes et de ces choix qui sont faits chaque semaine pour essayer d'éclairer nos auditeurs.
Écoutez, ça se passe tout le temps. Vous savez, un journal, c'est un happening permanent. On est là. Là, on s'engueule, on change d'avis, hein, c'est très important de savoir changer d'avis. On est d'accord, on n'est parfois pas d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il n'y a personne au-dessus pour nous expliquer ce qu'on doit faire. Ça, c'est une grande force et c'est une grande liberté. Vous savez, il n'y a pas de règles. Hein. Les journaux, c'est de l'artisanat. Hein, on décide dans l'instant, on change. Il faut être capable de changer d'avis. Si quelqu'un passe derrière l'écran et dit « je comprends rien à cette une », et on s'en fiche de savoir si c'est un chef ou si c'est pas un chef. Si on peut tout changer tout le temps, il faut accepter ce débat-là. Voilà, ce débat et cette virulence, même cette virulence.
Vous avez toujours un courrier des lecteurs?
Dans le journal papier, non.
Non, c'est fini.
On l'a plus, ça. Mais vous savez, les commentaires sous les articles et les réseaux sociaux remplissent cette fonction de manière surabondante.
Vous les regardez ou pas?
Je regarde, oui, ça m'intéresse. Alors, c'est pas forcément représentatif non plus. Hein. Faut savoir que évidemment Twitter connaît une surreprésentation de gens d'extrême gauche ou d'extrême droite, d'islamistes ou de les gens les plus excités sont surreprésentés sur les réseaux. Ouais. Et c'est vrai en particulier de Twitter qui est extraordinairement politisé. Néanmoins, c'est intéressant. Il faut accepter ça, il faut accepter cette confrontation. Il y a une étude aux États-Unis qui était très frappante et qui racontait que les journalistes habitaient à peu près tous dans les mêmes quartiers et que leurs interactions sur les réseaux sociaux, qui peuvent se mesurer, étaient principalement entre eux ou dans leur cercle avec les politiques, etc. Que finalement, la probabilité pour qu'un journaliste mainstream rencontre un jour un électeur Donald Trump était assez faible. Je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, le directeur de la rédaction du Point, qui s'appelle Sébastien Le Foll, a lancé un programme, veiller encore plus attentivement que le passé, on l'a toujours fait, ça a toujours été très important pour nous d'être présents partout en France, mais on va le faire, l'approfondir de manière encore plus forte. Parce qu'il faut absolument déconfiner le journalisme. Je pense que s'il y a l'un des mots du journalisme qu'on peut nommer, c'est le confinement qui existait bien avant l'apparition du coronavirus.
Ça n'a pas changé un peu quand même? Un petit peu.
Un petit peu.
Un petit peu.
Et c'est bien,
même.
Et je pense que c'est fondamental. Je pense que les Gilets jaunes ont aidé à ça aussi.
Parce
le mouvement des Gilets jaunes a permis de prendre conscience aussi qu'il y avait des choses qu'on ne voyait pas dans la société française. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, nous, c'est un credo depuis très longtemps, parce qu'on a des décisions régionales et une présence dans toutes les régions en France depuis très longtemps.
Ouais.
C'est un vrai souci du Point depuis l'origine, de surtout pas devenir un journal parisien.
Ouais.
Je pense qu'un journal parisien est un journal qui meurt. Mmh. Hein, voilà, si c'est un journal qui est confiné à quelques arrondissements, c'est un journal qui est mort déjà.
Ouais. Demain, vous suivez mon regard.
Ouais.
Il y en a quelques-uns.
Je n'ai cité personne.
Non, mais on comprend assez vite, Gilles.
Et demain, on va parler de quoi sur LCI à 21h ?
On va parler de liberté.
Ah.
On va parler des libertés en temps de Covid, aussi dans les périodes. Vous savez, quand il y a souvent des états d'urgence, dans les périodes de terrorisme, et puis souvent, il y a des mesures qui restent après. L'une des grandes questions, c'est qu'est-ce qui va rester de nos libertés post-Covid.
Ouais.
Le sujet n'étant pas de dire il faut sortir, s'embrasser sur la bouche et faire des apéros dans la rue. Hein. C'est pas ça qu'on prône du tout. Et c'est pas de ça qu'on va débattre, ce dont on va parler. C'est des libertés publiques et de ce qu'il en reste aujourd'hui. Et puis un petit peu aussi de l'infantilisation.
Ouais. Vous aurez qui comme invité ?
Alors, c'est pas encore complètement finalisé. Comme
d'accord.
Je veux pas vous donner une liste incomplète, je vous la donnerai.
Ça veut dire qu'on vous a pas envoyé, que l'invité n'a pas encore dit oui.
Ah, il y en a plusieurs.
Ouais. Ah, voilà, c'est moi qui connais la programmation.
C'est, le...
ouais. C'est compliqué ou pas d'avoir des gens Non.
Pour moi, c'est particulier parce que c'est une nouveauté. Moi, j'ai l'habitude.
Et pour vous, oui, comment ça se passe? Parce que vous êtes de l'autre côté en général, c'est-à-dire qu'on vous invite pour parler. Vous venez régulièrement sur Sud Radio également pour présenter votre une. Donc vous êtes plutôt interviewé.
C'est une découverte pour moi. C'est comme une petite plongée. C'est très curieux parce que effectivement, ça fait des années que je viens de temps en temps sur des plateaux de télé ou dans les studios de radio. Et là, effectivement, je suis de l'autre côté du miroir. Ouais. C'est une expérience. C'est dur votre métier, hein.
C'est dur, non.
Ça s'apprend, quoi. Il y a des choses.
On fait le même métier, mais.
Oui, mais il y a quand même une particularité.
Il y a la caméra qui est là et.
Et puis il y a la temporalité. Vous savez, en presse écrite, on a cette capacité de
rattraper.
D'abord, pour coincer quelqu'un, une fois que vous avez quelqu'un qui accepte de vous parler, vous pouvez lui parler entre 22h et minuit, c'est pas un problème. Si besoin est en radio ou en télé, vous avez des horaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà parti.
C'est déjà plutôt différent.
Ouais. Mais c'est très sympa, on s'entend très très bien avec Sonia Chironi, avec toute l'équipe de LCI. C'est très marrant, j'apprends plein de choses, quoi.
Il y a toujours deux personnes, c'est quand même un débat contradictoire ou pas?
Ça peut ne pas l'être. On ne recherche pas l'affrontement à tout prix. Vous savez, il faut absolument avoir quelqu'un qui... Vous savez, l'idée selon laquelle il faudrait absolument avoir des gens qui pensent des choses opposées. S'il y a quelqu'un qui pense que la Terre est plate et quelqu'un qui pense que la Terre est sphérique, on va pas faire un débat à 50-50, ça veut strictement rien dire. Donc on peut avoir des gens qui sont d'accord. Puis après, les gens derrière leur écran peuvent être en désaccord aussi. Puis ça m'est égal. Puis la semaine d'après, il y aura quelqu'un éventuellement qui penserait quelque chose de différent. Mais l'organisation systématique de la baston n'est pas une priorité de cette émission.
Non, au contraire, c'est de prendre de la hauteur, de faire réfléchir et dans tous les secteurs de la vie, de la pensée et qui sont en rapport avec l'actualité.
Oui, et puis d'essayer d'être à la hauteur des exigences et des envies des téléspectateurs et de LCI, des lecteurs du Point.
Et comme vous êtes patron du Point, vous avez peut-être le scoop, on sera confiné quand?
Alors écoutez, moi j'ai appris une chose.
Oui.
Depuis le début de ce mandat, c'est que ça ne sert à rien d'essayer d'être appelé un ministre qu'on connaît ou un conseiller de l'Élysée, etc., pour avoir l'info 2 heures avant, parce que dans les 3/4 des cas, on se plante, parce qu'il cloisonne, parce qu'il est capable de changer d'avis, ce qui est une bonne chose.
Ouais.
Il cloisonne visiblement beaucoup. Et donc les tuyaux de dernière minute, sont très souvent percés.
Oh, on n'a pas de scoop, Valérie.
On n'a pas de scoop. Et il faudra lire le Point, peut-être. Comment l'ARN va changer nos vies, c'est la une du Point demain en kiosque. Et puis sur LCI, donc le Point des idées, 21h05. Et puis évidemment, il y a beaucoup de replays possibles, accessibles sur le site d'LCI. Merci beaucoup.
Et puis juste, je voulais remercier Pierre-Yves qui, depuis septembre, fait le zapping avec moi.
Ah.
C'était son dernier zapping parce qu'il part dans d'autres aventures, podcasts. Donc je voulais le remercier d'être arrivé après Jamel.
Il est quand même là jusqu'à midi. Hein.
Il est là jusqu'à midi, mais moi, c'était ma dernière fois avec Pierre-Yves. Je voulais le remercier.
Merci à Pierre-Yves, merci Gilles, et puis merci à Étienne Journel d'être venu ce matin
merci
sur Sud
vous,
Radio.
Merci à vous, c'était un
plaisir. Merci.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, l'œil de l'expert. Aujourd'hui, on va s'intéresser au confinement, aux questions d'éthique. Beaucoup de questions autour de ce confinement. On en parle avec le professeur Emmanuel Hirsch. Bonjour.
Bonjour Valérie Expert.
Bonjour, vous êtes professeur d'éthique médicale, vous venez de publier Une démocratie, enfin ça sort tout juste, Une démocratie confinée aux éditions RS, l'éthique quoi qu'il en coûte, et c'est vrai que des questions d'éthique, il y en a eu beaucoup qui se sont posées, qui se posent toujours pendant ce confinement, les questions autour du confinement des personnes âgées, sur les Français qui semblent aujourd'hui ne plus accepter les décisions de l'État. Vous avez signé une tribune, la capacité de consentir aux décisions de l'État semble épuisée. Qu'est-ce que ce confinement a soulevé comme question pour vous, professeur d'éthique ?
D'abord, Valérie Expert, merci de m'inviter. Il n'y a pas que le confinement. Ouais. Il y a un an de confrontation avec des situations inédites, ouais, incertaines, qui meurtrissent la société. Donc, le troisième confinement, s'il a lieu, ce n'est pas le premier confinement.
Non.
On a connu ce qu'était le confinement, on a vu les conséquences au niveau de l'effondrement d'un certain nombre d'entre nous, que ce soit des personnes âgées au domicile, que ce soit des personnes malades qui n'ont pas pu se faire traiter, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, on est tous impactés de la même manière. Mmh. Donc on n'est pas dans des situations où tout est envisageable, et c'est pour ça probablement que le chef de l'État hésite à lancer en quelque sorte le signal de départ du confinement. Donc, le confinement, pour dire les choses telles qu'elles sont, on est confiné depuis un an. Mm. C'est-à-dire, on voit à quel point on doit chaque jour de ce qu'on ne fait pas, des risques que l'on est prêt à prendre ou pas, de nos solidarités vis-à-vis des plus vulnérables. Vous voyez. Donc, toute la société, en quelque sorte, est en quelque sorte confrontée à une réalité de l'éthique, puisqu'il faut décider. Les politiques doivent décider. Et donc, aujourd'hui, pour répondre vraiment à votre question, je pense que ce qui est le plus délicat, c'est d'arbitrer. Ouais. Qu'est-ce qui est le préférable ? On n'a pas tous les choix, on doit choisir le moindre mal et on doit se préparer à vivre sur une confrontation à des réalités qu'on ne maîtrise pas. Et donc comment, alors que nous parlait d'intelligence artificielle, ouais, comment alors qu'on avait l'illusion de tout maîtriser, on se retrouve finalement vulnérable, mais fort de la valeur de la démocratie. Et je termine aussi sur ce deuxième point. Depuis un an, on a fait une formidable démonstration de ce qu'est la capacité de notre démocratie à se mobiliser. Dans les lieux les plus retirés de la République, les professionnels les moins reconnus, bref, ouais, chacun d'entre nous a fait, j'allais dire, preuve de sa capacité de solidarité, de fraternité. Donc voilà, on n'est pas si démunis que ça. Ce qui est le plus difficile, c'est la confrontation à l'incertitude.
Oui, la confrontation à l'incertitude. Vous dites il faut une exigence éthique, quoi qu'il en coûte. Vous reprenez le terme du président de la République. Lui parlait, c'était l'aspect financier. Vous dites l'éthique, quoi qu'il en coûte, ça veut dire quoi ?
D'abord, je pense qu'on ne peut pas que critiquer le public ou l'État dans ce qui a été fait. Je trouve que ça a été un marqueur tout à fait exceptionnel de dire on prend en compte les plus vulnérables. Ce n'était pas si simple.
Mais est-ce que c'était une bonne décision ? Oui, est-ce que c'était une bonne décision ? Certains remettent en cause cette décision, ça occasionne évidemment beaucoup de débats, de dire pourquoi est-ce qu'on a vacciné les gens en EHPAD, qui sont confinés, qui ne sortent pas de leur chambre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vacciné tout le personnel soignant ? C'est ces questions-là, c'est des questions d'éthique aussi ?
Tout à fait. D'abord Valérie, oui, c'est pas une bonne décision en soi, c'est la moins mauvaise décision qui était à prendre. Et Jean-François Delfraissy l'a dit aussi à plusieurs reprises, à telle enseigne que récemment, il a dit « si on est confronté à un nouveau confinement, peut-être qu'on devra prioriser d'autres personnes, notamment les plus jeunes, par exemple, ouais, ou ceux qui ont besoin de maintenir une vie familiale, une vie sociale, une vie professionnelle. » Donc, vous voyez à quel point on est confronté, ce qu'on appelle en éthique, à des dilemmes, ouais, c'est-à-dire à la nécessité de choisir. Le reproche qu'on peut faire au gouvernement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concertation. C'est-à-dire les décisions sont prises par le président de la République à telle enseigne que chacun d'entre nous attend la décision, qui est une décision grave, hein, avec des conséquences importantes, et c'est le chef de l'État qui la prendra. Ouais. Il manque de la concertation, et peut-être qu'on aurait pu faire un travail plus intéressant à la sortie du premier confinement, partager les retours d'expérience et se préparer à la réalité. Ce qui est angoissant pour les gens, c'est ce troisième confinement possible avec des variants dont on ne sait pas quelle est la pathogénicité, et un confinement qu'on n'a pas réellement préparé. C'est-à-dire, on peut très bien dire que depuis à peu près un an, on est plus ou moins confiné, c'est-à-dire on navigue, on s'adapte, mais si demain, d'une manière tranchée, on a un très grand confinement, c'est-à-dire un confinement massif, hein, comme on a eu
en mars
dernier, entre mars et mai, je ne suis pas certain que les personnes soient capables, humainement, psychologiquement, de l'accepter. Et vous voyez, en termes d'éthique, on voit ce qui se passe aux Pays-Bas notamment, l'acceptabilité sociale. Mmh. On est dans une démocratie, on a des gens qui sont au bord du gouffre, je pense à des commerçants, à des familles qui sont totalement disloquées, à des jeunes qui sont aujourd'hui au bord du suicide, parce qu'ils n'ont plus de perspective. Donc, quand je dis ça, je suis pas en train de dramatiser. Hier, je discutais avec un parlementaire qui disait, écoutez, il y a plus grave que la pandémie, les affaires générales du pays. Aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est grave pour soi, pour les autres, mais également pour le devenir. Mmh. Et vous voyez, vous avez posé la question des personnes d'un certain âge. C'est pas parce que vous êtes âgé ou très âgé que vous n'avez pas le droit à la considération, à la sollicitude et à la fraternité d'une communauté humaine. Société aux policiers. Donc, je ne pense pas que ça a été un mauvais choix. D'ailleurs, je pense que les personnes dans les EHPAD, leurs proches ont apprécié la considération. Je ne pense pas que c'est un mauvais choix. C'était un choix immédiat. Et maintenant, il y a peut-être d'autres choix à faire. Et lorsque Jean-François Delfraissy dit d'une manière assez générique que les personnes les plus vulnérables doivent aussi se confiner chez elles, je lui ai dit, mais elles le sont déjà.
Oui, c'est ça.
Il y a un point... qui est important pour les auditrices et les auditeurs qui sont peut-être des personnes malades. Oui. Vous savez que le fait d'avoir priorisé, et c'est un point éthique, les personnes atteintes de Covid-19, pendant la partie la plus difficile de l'accès à l'hôpital, on a renoncé à soigner des personnes atteintes de cancer, atteintes de maladies chroniques. Et vous voyez, en termes d'éthique et de justice aujourd'hui, si par exemple, il y a demain nouveau un lourd confinement, est-ce qu'on laissera de côté les personnes qui ont un besoin vital d'un traitement? Vous savez que l'Institut Gustave Roussy a fait une étude, 10 à 20% des personnes atteintes de cancer seront surexposées à une mortalité de ce point-là. Donc, pour résumer, vous voyez, si j'étais le chef de l'État, il y a deux aspects à prendre en compte. Une réalité qui ne contrôle pas, c'est la poussée épidémique, et tous les pays sont confrontés à la même réalité. Il a des finalités, et peut-être qu'on lui dira que l'arbitrage, c'est de faire un confinement difficile, un confinement lourd. Et il y a des conséquences. Et oui, on a essayé d'amoindrir les conséquences d'un point de vue socio-économique. Mais vous avez des drames humains qui aujourd'hui sont insupportables, irréparables. Vous avez des deuils, vous avez des crises. Donc, vous voyez, c'est la dimension sociétale aujourd'hui qui doit être aussi prise en compte. Mais alors, vous avez la dimension scientifique et vous avez la dimension sociétale.
Mais alors, comment justement on fait le choix? Vous avez prononcé à plusieurs reprises ce mot, parce que l'éthique implique un choix, en tout cas de réfléchir à ses choix. Et c'est bien le débat qu'on a, nous, pratiquement tous les jours, de gens qui s'affrontent et qui disent « mais on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça ». Donc, le sanitaire face au social, au sociétal, comment on fait?
Vous savez, Valérie, expert, vous faites dans vos émissions de l'éthique, peut-être sans le dire. Quand vous dites réfléchir à ses choix, vous êtes un bon prof d'éthique. C'est comment assumer nos responsabilités. Et dans le contexte d'une démocratie, vous savez, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on dit les non-démocraties, c'est-à-dire les pays autocratiques, autoritaires, totalitaires, réussissent peut-être mieux que nous, la démocratie, à juguler parce qu'ils ont des mesures discrétionnaires, notamment qui amputent les libertés individuelles, les droits des personnes. Il faut trouver le bon équilibre dans une démocratie. Et vous voyez, les controverses, elles sont tout à fait fructueuses. Malheureusement, le gouvernement ne prend pas en compte les controverses dans le cadre de ces délibérations secrètes, confinées, dans le cadre de comités confidentiels. Mais heureusement qu'on a les médias aussi pour relayer la diversité des points de vue. Le seul point fondamental, c'est qu'une fois qu'on en a discuté, qu'on a donné nos points de vue, il faut arbitrer une décision et il faut que chacun y adhère au nom de l'intérêt général. Je crois qu'il y a aussi, dans une situation de crise, c'est pas une situation de guerre, mais il y a quand même des morts, il y a quand même des meurtrissures et il y a des conséquences. Je pense qu'à un moment donné, on doit s'accorder sur l'intérêt général, le bien commun, c'est-à-dire des valeurs supérieures. Mon seul reproche fondamental, c'est que notre représentation parlementaire ne soit pas davantage impliquée dans les arbitrages. Vous avez vu, on lui demande comme un blanc-seing de manière régulière d'accepter d'adhérer à ce qui est une procédure un peu d'exception, puisqu'on est dans un état de force majeure, disons, et d'urgence sanitaire. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on prenne en compte véritablement l'urgence de chaque personne dans sa capacité de l'exprimer et surtout de trouver des modalités d'accompagnement. Pour moi, le défi, et avec On a créé un site, Éthique et Pandémie, donc on a tout un groupe qui travaille sur ces questions. On va sortir un document demain sur comment accompagner concrètement les plus vulnérables. Et je vous donne juste un exemple qui était pour moi tout à fait fondamental. Vous avez au domicile des personnes atteintes de maladies comme la maladie d'Alzheimer ou des personnes qui sont lourdement handicapées. Le confinement, lorsqu'ils sont avec un proche dans un petit appartement, n'a rien à voir avec le confinement d'une personne qui a toute son autonomie, qui peut accéder aux émissions de Sud Radio, se cultiver, et qui, quelquefois, vous avez vu, après le premier confinement, reprochait même qu'on arrête le confinement. Donc, il faut prendre en compte, et c'est le dernier point important au niveau de l'éthique politique, d'abord les personnes les plus vulnérables. Mmh. Et quand le chef d'État a dit « je vais prendre en compte les personnes qu'on liste de rester sur le bord du chemin », notamment les personnes très âgées, les personnes dépendantes, je trouve que c'était un bon choix. Même chose pour la vaccination. Regardez, on a hiérarchisé et on a eu en tous les discours des philosophes et des commentateurs qui disent « mais vous donnez le vaccin à des personnes qui n'en ont pas besoin, soit parce qu'elles sont confinées, soit elles sont très âgées, est-ce que ça serait pas plus bénéfique de donner aux personnes jeunes qui ont une vie active ?» Voilà des questions qui se posent en termes d'éthique. Et c'est là où il y a besoin du débat et qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir confiance dans la parole du politique. Et vous voyez, ce qui a suscité beaucoup de défiance, c'est les tergiversations des politiques.
Ouais.
On ferme les essentiels ou pas les essentiels? Qu'est-ce que c'est un essentiel? Vous voyez, donc ce que j'attends, si demain, malheureusement, on prend la décision d'un reconfinement, c'est de la lisibilité, de la proportionnalité dans les décisions et aussi de l'acceptabilité.
Bon.
Pour nous, c'est pas de la même manière si on est dans des moyens économiques importants, qu'on est confiné, ou si on est daté des quarts-monde.
Oui,
vous voyez à quel point ces éléments sont à prendre en compte.
Bon, j'avais plein de questions à vous poser. Hélas, on n'a pas le temps, mais je vous réinviterai.
Mais vous pouvez toujours me réinviter.
Oui,
hein,
on vous réinvitera. Mais ce livre est tout à fait intéressant parce qu'il s'intéresse à un certain nombre de questions qui se sont posées. Par exemple, le refus du port du masque, une défaite politique. Vous analysez les causes de la démobilisation. Vous interrogez un certain nombre de choses dans ce livre, dans des articles que vous avez écrits au fil de cette année. C'est paru donc aux éditions RS, une démocratie confinée, l'éthique quoi qu'il en coûte. Professeur Emmanuel Hirsch, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de l'invitation.
Et puis je vous réinviterai. Merci à vous.
Avec plaisir, Valérie.
On se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite.